Vous écoutez On lit pour vous.
La mesure du temps, un texte signé Monique Durand, publié dans Le Devoir édition des 11 et 12 juillet 2026. Le temps est un grand livre dont les pages tournent au vent des jours, un calendrier sans fin dont les dates, une fois périmées, se dissolvent pour ne plus revenir et dont celles à venir s'étendent sur un horizon indiscernable. Chaque fin d'année marque un rituel pour nombre d'entre nous. Se procurer un calendrier des 12 mois qui viennent, affichant des paysages, des oiseaux, des fleurs, des autos, des motos, et jusqu'à de jolies femmes aux lèvres gourmandes, punaisées dans le fond d'une station-service. Les calendriers sont payants ou gratuits, sobres ou fantaisistes. Vieux calendriers écornés qu'on hésite à déchirer comme les vieilles lettres d'amour, ou, au contraire, qu'on se dépêche à déchiqueter quand l'année terminée fut horribilis. Annus horribilis, mot devenu célèbre prononcé par Élisabeth II pour décrire l'année 1992 qui en fut une désastreuse pour la famille royale. Parler du temps, c'est parler de la façon dont les humains ont cherché à le mesurer. Les mouvements du soleil et les déplacements de l'ombre, le retour des saisons ou les cycles de la lune, guillemets, ont servi de première référence, mentionne la page Wikipédia de l'histoire de la mesure du temps, pour organiser la vie agricole, sociale et religieuse des sociétés. Fin des guillemets. Les façons de mesurer le temps ont évolué selon les époques et les avancées de la connaissance. Newmont, clepsydre, sablier et autres cadrans solaires se succéderont jusqu'aux horloges atomiques d'aujourd'hui. L'un calendrier à l'autre. Dans les temps anciens, on comptait généralement les années à partir de l'année d'intronisation du souverain régnant. Les Romains ont préféré, eux, les compter à partir de la fondation de Rome. Sous Jules César naît ainsi le calendrier julien. 5 siècles plus tard, en l'an 525, sous l'empereur Justinien, et à la demande du pape Jean Ier, un moine astronome du nom de Denis le Petit bouleverse tout en proposant de faire de l'année de la naissance du Christ, l'an 1, d'un nouveau décompte du temps. C'est lui qui décide que Noël tomberait un 25 décembre. Cette façon de mesurer le temps sera bientôt adoptée quasi universellement pour des raisons de commodité et de commerce. Et pourquoi faire démarrer le décompte du temps à partir de la naissance du Christ? Parce que l'Empire romain est devenu chrétien et que l'Église catholique, alors d'une influence prépondérante, a réussi à imposer cette datation. 10 siècles après les travaux de Denis le Petit, en 1582, le pape Grégoire XIII fait adopter le calendrier grégorien afin de corriger les inexactitudes scientifiques du calendrier julien. Le calendrier grégorien est encore en vigueur dans la majeure partie du globe aujourd'hui. Fait cocasse, la transition du calendrier julien au calendrier grégorien aura pour effet que le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 sera le vendredi 15 octobre 1582. L'écrivain Pascal Guignard raconte que sainte Thérèse d'Avila rendra l'âme dans l'entre-deux. Citation, elle mourut l'un des 10 jours qui n'existèrent pas. Fin de citation. Autre étrangeté de l'histoire, il y eut même un calendrier républicain adopté en 1793 au cours de la Révolution française. Il associait chaque jour à un produit du terroir. Napoléon Ier remit en place le calendrier grégorien en 1806. Une constante demeure. L'humain reste fasciné par le temps qui passe inéluctablement, le seul élément sur lequel il n'a aucune maîtrise. Citation. Alors, à défaut d'avoir une quelconque influence sur lui, il le mesure, toujours plus précisément. Note de bas de page. C'est un extrait du site lepetitpoussoir.fr, l'histoire de la mesure du temps. Fin de la note retour au texte. Les humains inégaux face au temps. Face au temps qui passe, les humains ne sont pas égaux. La jauge de la longévité n'est pas au même niveau pour toutes et tous. Un enfant qui naît aujourd'hui au Tchad ou au Nigeria vivra en moyenne 30 ans de moins que son semblable au Japon et 25 ans de moins qu'au Canada. Cela pour toutes sortes de raisons, comme l'accès à l'eau potable, aux soins et aux vaccins, l'alimentation, les conditions de logement et de travail. Note. Observatoire français des inégalités, juillet 2024. Retour au texte. Citation « Je suis déjà une vieillarde », m'avait dit la militante et féministe rwandaise Marie-Immaculée Ingabire lorsqu'elle n'avait pas encore 45 ans. « Je ne vivrai pas aussi longtemps que vous ». Fin de citation. Marie-Immaculée, dont je n'ai jamais oublié la force d'être, avait présidé Transparency International Rwanda. Elle est décédée il y a quelques mois, à l'âge de 63 ans, soit l'exact échelon de l'espérance de vie moyenne en Afrique, situé en 2023 à 62,99 ans. Note, site atlassociaux.com, juillet 2023. Plus près de nous, une étude récente de Statistique Canada révèle que l'espérance de vie des membres des Premières Nations est de 77 ans et celle des Inuits de 72 ans, comparativement à 85 ans pour les non-autochtones. Autre étude éloquente, celle du sondeur Alain Giguère dans l'État du Québec 2026, cette fois à propos du rapport que les Québécois entretiennent avec le temps. Lecture de la note. L'État du Québec 2026, Penser le temps autrement, édition somme toute Le Devoir. Fin de la note, retour au texte. Citation, le rapport de la population québécoise au temps, écrit-il, est traversé par quelques tensions, nostalgie du passé, surcharge du présent et incertitude face à l'avenir. Ellipse. Cette perception temporelle s'accompagne aussi d'un sentiment d'accélération largement partagé. Fin de citation. L'hyperconnexion, à laquelle s'ajoutent de hautes exigences de performance, alimente une impression de saturation de trop-plein, si bien que près d'un Québécois sur cinq affirme passer sa vie à courir. Bras de fer permanent avec le temps, citation, dans une spirale d'urgence et d'obligation. Fin de citation. Alain Giguère conclut en décrivant un Québec où, citation, la gestion du temps est vécue comme un enjeu existentiel, révélant un besoin criant de ralentissement, de recentrage sur soi et ses proches. Fin de citation. Il dépeint une société à la fois lucide et déchirée entre la fatigue de vivre dans un monde qui va trop vite et la volonté de s'y adapter. Patience dans l'azur. Citation. La Terre flotte autour de notre étoile, le Soleil, depuis déjà 4,5 milliards d'années et devrait poursuivre sa trajectoire pendant une durée comparable. Fin de citation, explique Laurie Rousseau-Neptune, d'origine Innu, première femme autochtone canadienne à avoir obtenu un doctorat en astrophysique. Citation, l'astronomie a un côté apaisant, poursuit-elle, en raison des temps astronomiques qui nous invitent à la patience. Fin de citation. Note, extrait de l'État du Québec 2026, Penser le temps autrement, édition somme toute, le devoir. Retour au texte. Comment ne pas penser ici au titre si beau d'un livre de l'astrophysicien Hubert Reeves, Patience dans l'azur, point d'interrogation. Citation. Personne ne sait vraiment ce qu'est le temps, écrit-il. Quand on le talonne de trop près, il mène droit au mystère. Fin de citation. Note. Patience dans l'azur, Hubert Reeves, édition Point, 2014. Les mots du titre de ce livre sont empruntés à un poème de Paul Valéry intitulé « Palme ». Retour au texte. Est-elle partie dans l'azur, cette amie mourante dont j'ai tenu la main? Durant toutes ces années passées dans un CHSLD, s'exerce-t-elle à la patience dans l'azur ou elle s'envolerait? La patience du gruau le matin, la patience d'une chaise où dormir une partie de la journée, la patience d'une marchette à pas lents où se recourbaient ses épaules, la patience d'une crème glacée aux fraises offerte par un personnel attentionné au milieu de la cour des miracles? S'éprouvait-elle avant d'aller naviguer dans des mondes nouveaux? Tandis que je tenais sa main, de sa fenêtre on voyait, aux arbres, éclater les bourgeons et pousser à vue d'œil les feuilles tendres du printemps. Nous étions dans la chair même du temps, vie et mort emmêlées, toujours recommencées. Fin de ce texte de Monique Durand, titré « La mesure du temps », publié dans Le Devoir du 11 et 12 juillet 2026.
Mike C. Vienno, Être un passeur. Propos recueillis par Alexandre Mignot, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Chapeauté par l'Association des libraires du Québec, le prix d'excellence, qui souligne le travail exceptionnel des libraires, a été remis cette année à Mike C. Vienno de la librairie Médiapole à Montréal. Enthousiaste de transmettre sa passion, le lauréat nous en dévoile davantage sur les coulisses de son métier et sur ses lectures. Depuis quand êtes-vous libraire?
Je suis entré en librairie il y a près de 30 ans. J'ai travaillé dans 7 librairies où j'ai été libraire, acheteur, gestionnaire, chef d'équipe, responsable des événements, animateur de rencontres et d'entrevues. J'ai fait un saut en enseignement comme chargé de cours entre deux moments en librairie.
Pourquoi avez-vous choisi le métier de libraire?
Parce que c'est ce que je sais faire de mieux.
Je me sens dans mon élément.
Je ne sais pas tant si j'ai vraiment choisi le métier ou si c'est lui qui m'a adopté. Ce que je sais, c'est que quand je suis entrée à 24 ans dans ma première librairie en tant que libraire, je rêvais depuis longtemps de ce métier. Il faut croire que le rêve était tenace.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail?
Le lien avec les lecteurs et lectrices, les échanges, le fait de pouvoir prolonger mon métier d'enseignant dans les conversations et conseils de lecture. Apprendre des clients et clientes, autant que je peux les diriger et leur faire découvrir des nouveautés. Aussi, être entouré de livres. Découvrir toutes les nouveautés à venir. Retrouver dans les boîtes les titres commandés 2-3 semaines avant. Les placer en librairie en sachant que telle pile saura charmer un lectorat, en espérant qu'une autre pourra capter l'intérêt.
Que représente pour vous le fait de recevoir le prix d'excellence?
C'est une reconnaissance que je trouve très humblement méritée. Je m'explique. On travaille beaucoup à faire de multiples tâches en librairie. On ne s'en plaint pas. Le contexte de travail est super. Le lieu est agréable. Comme on dit, il y a pire. Mais le prix d'excellence, c'est nous dire que le métier existe, qu'il est distinct. Le prix, ce n'est pas une histoire de vanité ou d'autocentrisme, mais c'est un message qui me rappelle que je sais ce que je fais, qu'on l'apprécie, qu'on le reconnaît, et que je suis un libraire d'exception, et que ce titre entraîne les autres à apprécier le métier et à faire pareil. C'est comme une validation de guide, de passeur, de mentor. Racontez-nous un beau souvenir de votre vie de libraire. Il y en a beaucoup. C'est souvent des souvenirs simples, des moments. Oui, il y a cette anecdote où j'ai servi Anne Hébert, ou cette cliente qui voulait apprendre à lire. Mais je me souviens d'une cliente qui venait souvent, les vendredis, chercher des livres pour son fils. Elle arrivait, un peu découragée, car fiston, presque 10 ans, lisait beaucoup, trop même. Il dévorait les livres, ce qui entraînait 2 situations. Il était toujours en manque de lecture en classe, car il lisait trop vite, et cela coûtait cher à la mère. Pour les 2 situations, je ne pouvais pas faire grand-chose, mais je pouvais la guider, la diriger dans la sélection de livres, qui débordait de livres jeunesse afin de nourrir son fils affamé de lecture. C'était de belles rencontres, car elle s'en remettait à son libraire. Un climat d'échange et de confiance s'était établi, et cela me permettait de bien le connaître et de pouvoir proposer autre chose, de pousser l'effort de lecture, de varier les choix. Je la voyais revenir de vendredi en vendredi, moins essoufflée et plus rassurée de trouver une pile de livres qui allait survivre à la semaine de lecture de son enfant. Selon vous, en quoi la librairie est-elle un lieu essentiel à une société, à un quartier? Et dans le cas de Médiapôle en particulier? La librairie, c'est comme un temple de la connaissance, du savoir, en communion avec les écoles, les bibliothèques et les espaces culturels. C'est un lieu où on achète des livres, donc où on se procure du savoir, du divertissement, du plaisir. Mais c'est aussi un espace de discussion, de rencontres et de partage. Combien de fois des gens entrent sans rien acheter, mais pour parler d'un livre conseillé la semaine dernière ou pour annoncer un livre à venir, sachant très bien que nous sommes les premiers informés. Dans le cas de Médiapôle, notre présence est un pivot vital dans un quartier qui se transforme tout autant qu'il conserve ses attributs qui l'ont construit. Ainsi, notre clientèle est variée, composée de réguliers, fidèles habitués, tout autant que de nouveaux visages, nouvellement arrivés dans le quartier et heureux de découvrir une librairie généraliste près de chez eux. La force d'une librairie, c'est inévitablement le choix de ses livres, sa variété et la diversité qui donnent un caractère différent d'une librairie à l'autre, mais aussi beaucoup cette diversité. C'est l'identité particulière et unique des libraires qui forment un tissu organique dans la librairie. Nous sommes des passeurs de lecture, mais pour passer, il faut qu'il y ait quelque chose à passer, les livres, et quelqu'un pour recevoir, la clientèle. Après, on passe avec passion. Vous animez à la radio avec Linda Dion Libraire de force. Parlez-nous de cette émission littéraire.
C'est une émission qui a maintenant plus de 7 ans. Nous sommes rendus à plus de 380 émissions. Je suis fière de cette émission qui donne la parole à la lecture et à l'écriture 2 heures par semaine. La première partie de l'émission est souvent composée d'une entrevue de 45 minutes ou d'une heure. Cette formule nous permet d'aller au-delà de l'entrevue. Nous sommes dans une discussion, une causerie. La participation des chroniqueurs et chroniqueuses permet en plus d'apporter une richesse puisqu'on y aborde différents styles, littérature jeunesse, écriture de soi, poésie, avec un ton personnel et impliqué. Linda et moi avons un style différent, avec des lectures distinctes et une approche différente qui se complète. Cela apporte une profondeur à l'émission. Libraire de force, c'est mettre les auteurs et autrices de l'avant avec leurs livres, mais aussi discuter d'écriture, de sujet, d'intention d'écriture. Le fond et la forme se mélangeant, le sujet et l'objet ayant tout autant de valeur et d'importance. Libraire de force, c'est un lieu de rencontre, de discussion et d'exploration. Quel livre est associé à votre premier souvenir de lecture? Inévitablement, je l'ai mentionné dans mon discours de remerciement, la série du Club des Cinq chez Hachette. Ma première passion de lecture romanesque, de l'action, des enfants que j'enviais, le développement de mon goût pour les polars. Tout était là pour me captiver. Il y avait aussi tous ces livres qui me renseignaient sur la vie, les encyclopédies variées, ces fameux livres de type « 1000 questions, 1000 réponses » que je dévorais et pour lesquels j'ai encore beaucoup d'intérêt lorsque je tombe sur un livre de culture générale aux nombreux sujets. Quelle importance la lecture a-t-elle dans votre vie? Incontournable. Nécessaire, vital. J'ai tendance à dire que j'ai appris à lire en naissant. Pas si faux si je considère que mettre des livres entre les mains d'un enfant, c'est déjà le former à la lecture, juste par le fait de tenir un livre, de regarder les images, dessins, photos ou mots. Les lettres sont des images. J'ai beaucoup lu, ce qui demeure un fait, de tout, partout. Je ne peux passer à côté de certains clichés qui sont tellement vrais. La lecture est un refuge pour les jours gris, météorologiques et psychologiques. La lecture, c'est l'ouverture au monde et le moyen de voyager sur place. La lecture, c'est un ami qui nous suit partout. La lecture me permet de m'ouvrir aux autres et que les autres me reconnaissent, mais c'est aussi un espace de repli, un moment pour moi, afin de mieux rayonner vers les autres. Quel écrivain ou écrivaine aimeriez-vous que tout le monde découvre? Louis Gautier. Trop mal connu. Il navigue parfaitement entre l'humour et le sérieux. Il est à la rencontre de la contre-culture littéraire du Québec et des grandes œuvres marquantes. Louis Gautier a une langue impressionnante, un rythme difficile à égaler, tellement il varie et ses images sont fortes. Il faut lire Anna, BQ, pour saisir toute l'ampleur de son écriture et plonger dans le reste de ses romans. Quel est votre dernier livre lu? Je n'ai jamais dit papa, de Louis-Philippe d'Alembert, chez Robert Laffont.
une lettre au père, émouvante, d'un fils qui ne l'a jamais connu. Il y a des phrases inoubliables dans un récit où l'auteur parle à un père qu'il reconstruit constamment par les souvenirs rapportés par les autres ou par de simples photos qu'il a pu conserver. Un message attendrissant et lucide qui touche et atteint les lecteurs qui n'auront pas connu leur père, qui a fui comme dans le roman ou qui est parti tragiquement trop tôt comme dans la vie. Et qui leur donne le droit de parler à celui qui n'est plus et qui, malgré tout, sera toujours. Quel est le livre que vous recommandez le plus souvent? C'est relatif. Beaucoup de facteurs influencent la régularité de mes conseils ou leur fluctuation. Conseiller un livre, c'est suggérer ses choix, influencé par ses préférences. Mais c'est surtout sentir les besoins de la clientèle, être à l'écoute du lecteur ou de la lectrice. Mais dans les dernières années, j'ai beaucoup conseillé « Sauvage » de Julia Carninon chez Iconoclaste. Une histoire d'émancipation et d'apprentissage. « Le don » de Christina Gauthier-Landry chez La Peuplade. Parce que personne n'écrit comme elle. Parce qu'elle a son écriture. Le discours de Fabrice Caro chez Folio. Un roman où l'humour est intelligent et soutenu et qui permet de décrocher de notre quotidien. Les enfants du massacre de Giorgio Serbanenko chez Galmester. Un chef-d'œuvre d'un maître du polar qui décortique lentement les identités des personnages et qui offre un tableau social dur et violent. C'était Mike C. Vienno, Être un passeur. Propos recueillis par Alexandre Mignot, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.